Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenue à Un peu de crime dans ton café. Je suis votre animatrice Catherine et je suis avec Audrey. Bonjour Audrey, comment ça va?
Ça va, merci. Et toi Catherine, comment ça va?
Ça va très bien. J'ai pris un mauvais moment pour mettre un schnack dans ma bouche.
Oh non, j'aurais dû te staller un petit peu comme oui, bonjour, ça va très bien. Cette nuit, j'ai fait un rêve tellement étrange.
Oui.
J'ai rêvé que Catherine... Puis toi, Mégane, là, j'ai spoilé le punch que Mégane est encore parmi nous parce qu'on l'a pas mordu. En tout cas, j'ai rêvé qu'on allait dans un magasin de décoration de Noël qui est ouvert à l'année.
Nice!
Parce que, genre, on venait de s'acheter un cabanon puis on voulait décorer. Fait qu'on était allé acheter plein de décorations de Noël. Puis je pense qu'on est allé, genre, en kayak ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'était très étrange comme rêve. Puis je pense que c'était juste mon subconscient qui était vraiment excité d'enregistrer avec vous aujourd'hui. Fait que j'ai rêvé à vous autres parce que j'avais trop hâte de vous voir.
Mais oui!
Écoute, les magasins de Noël ouverts à l'année, c'est la chose la plus white people que j'ai jamais vue, mais écoute...
Ben ça, puis les magasins d'Halloween, on va s'entendre. Les magasins d'Halloween à l'année avec les masques de tête de chevaux.
Je me demandais si t'en allais.
Je vais pas faire peur. De tête de chevaux. Je vais juste vous mettre cette image-là dans la tête. Alors, oui, nous avons encore notre invité spécial parce que là, c'est le moment où on vous révèle notre secret à un peu de crime. On enregistre nos épisodes en groupe. En batch.
En bulk.
Ouais, en bulk. On est comme le bulk barn des podcasts et on enregistre plusieurs épisodes à la fois. Alors, Mégane est encore là avec nous aujourd'hui. Comment ça va, Mégane?
Allô, je suis encore là. Ça va très bien.
Alors, aujourd'hui, yeah. Tu n'as rien à nous raconter.
Non, pas aujourd'hui.
OK, full disclaimer.
Non.
C'est Audrey qui va nous raconter un cas.
Yay, c'est à mon tour.
Je vais juste faire des bruits en background
des
bruits avec
bouche.
Toi.
Ouais, moi aussi, quand je vais mettre des snacks dans ma bouche puis parler.
De l'écoute active.
Puis je vais dire, ouais, exactement. C'est ça, comme je dis dans tous les épisodes. Alors, Audrey, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui?
Oui, ben avant, je voulais vous parler de mon café que...
C'est vrai, j'ai oublié ce bout-là. On boit du café ici!
On boit du café ici, sinon, va-t'en. Le café que je vais vous recommander aujourd'hui, c'est le café Joyeux Roger du torréfacteur Zab, qui est un torréfacteur montréalais. Et Joyeux Roger, ben c'est le Jolly Rogers, qui est le drapeau des pirates avec le skull and crossbones. Alors, c'est un café qui vient du Brésil. Et les notes nous sont décrites comme étant brownie, noisette et crémeux. Pouvez-vous rester dans le même type de mots quand vous faites des listes, mais whatever. Ça, c'est mon petit côté éditrice que je suis comme non. Quand tu fais une liste, tu restes dans le même groupe de mots. Donc c'est très.
En fait, un zeugme.
Ouais.
Pour révéler notre zeugme. Background littéraire.
Oui.
C'est quand tu fais une comparaison mais avec deux types de mots qui appartiennent pas au même genre de mots.
Alors.
D'accord! C'est très intéressant, je connaissais pas ce mot, tu m'apprends des choses tous les jours. C'est comme le Johnny Rogers, là. Mon Dieu, j'avais jamais entendu parler de
c'est
ça.
C'est le 3 minutes le plus dense en nouvelle information que t'as
vous allez vous coucher tellement moins niaiseux à soir, là.
J'ai de la misère à rattraper ce que j'ai manqué. J'ai l'impression de ne plus être à jour dans ce que
j'ai. Il y a tellement de choses qui arrivent en même temps.
Fait que là, un zeugme, c'est comme si tu dis mon café, ça goûte l'amour, puis manger.
Ouais, genre, comme l'amour et les brownies.
Ah, ok. Ouais, mais je veux dire...
Mais les brownies, c'est l'amour.
Mais je veux dire, grammaticalement, comme l'amour puis les brownies, c'est les mêmes sortes de mots.
C'est les mêmes sortes de mots, mais ça appartient pas à la même, le même champ lexical.
Ah! Ok, excuse-moi. Moi, je pensais que c'était comme les gens qui font des listes de « Qu'est-ce que je vais faire demain? » Dormir, la vaisselle, puis...
Lasagne!
C'est comme « Non, non, dormir, c'est un verbe, la vaisselle, c'est pas un verbe! » Ou lasagne! C'est comme... c'est pas une liste, ça. Les listes, c'est des choses qui sont pareilles.
Non, on parle de café, non, ici.
Mais de retour à mon café.
On ne parle plus de grammaire, ok, go!
Haha, on vous a eu maintenant, c'est un podcast de grammaire, oh, sorti de pêcherelle. T'as oublié ton bécherel de m'écrire une note dans ton
on
agenda.
On fait dicter troué à mi-chemin.
Que j'eusse, que tu eusses, que nous eussions, que vous eussiez.
Apprenez vos verbes avec Catherine Mécanie Audrey. Ça va être des années de plaisir. Moi, j'ai dit des années.
Vous m'avez perdu complètement. Là. Je vais rire jusqu'à la fin de l'épisode. Puis j'écoute
ok, attends, okay, attends, là, je vais vous reel back in. Alors, mon café aujourd'hui, c'est Brésil de chez Zab, les torréfacteurs. En tout cas, c'est le café Brésil, ça goûte bien bon, comme tous les cafés brésiliens, on a un petit goût un peu beurre, crémeux, sucré, je vous le recommande. Et en plus, Zab font affaire avec la tatoueuse Noémie Eclipse pour leur design, alors le sac est particulièrement beau, et quand j'avais terminé, j'ai franchement hésité avant de le jeter, tellement je trouve que le design est beau. Alors c'est aussi un shout-out à la tatoueuse Noémie Eclipse, dont j'aime beaucoup le travail. Vous pouvez aller la suivre sur Instagram et vous pouvez aussi suivre Zab. Moi, Zab, j'ai acheté mon sac chez Aroma, qui est tout près de chez moi. Mais je pense que ça commence à être disponible quand même chez plusieurs torréfacteurs. Et sinon, vous pouvez toujours commander sur leur site web. Alors, c'était ma recommandation café d'aujourd'hui. Et sinon, maintenant que vous avez votre café dans les mains et qu'il est bien chaud, je peux commencer à mettre un peu de crème dans votre café.
Oui!
Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire de crime assez connue. C'était une demande spéciale, alors...
Wow, 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 wow! Qui t'a demandé ça?
Mon père.
Ah, c'est correct. Dans ce cas-là, ça va, c'est correct.
C'est pas le cas le plus original, parce que ça a déjà été fait en film, contrairement à Claude Faneuf, qu'on disait comme « Mon Dieu, ça devrait donc être fait en film, mais là, we've got you covered, ça a déjà été fait. » Alors aujourd'hui, je vais vous parler de... Manica la mitraille.
Piou, 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 piou.
Alors, vous allez pouvoir vous imaginer la belle Céline Bonnier avec le beau Roy Dupuis.
Oh, le beau Roy!
Oh, le beau Roy, ça c'est un homme en or!
Top 25 des plus beaux hommes du Québec!
Oh, oui, oui, aux côtés de Charles Lafortune!
Depuis 10 ans,
là. Ah oui, au côté... Ah oui, aux côtés de Charles Lafortune et de Richard Séguin, ce sont des abonnés...
Richard Séguin!
Ce sont des abonnés au top des plus beaux hommes du Québec! Alors, mes sources pour cet épisode... J'ai le livre « La mafia irlandaise de Montréal » par Darcy O'Connor. Un article du MTL Blog, qui était étrangement la source la plus complète sur Monica la mitraille. Alors, thumbs up à MTL Blog. Et un article de la presse de Daniel Proulx, qui commence à être un habitué de un peu de crime, parce qu'il écrit très bien, et on aime beaucoup ses articles. Alors, je vais commencer en vous mettant un peu dans le contexte de l'époque. À la fin des années 60, la presse américaine et canadienne ont décerné à Montréal le titre peu enviable de « capitale du vol de banque qualifiée en Amérique du Nord ». En effet, entre la fin des années 50 et tout au long des années 60, il y a eu plus de vols de banques perpétrés à Montréal que dans n'importe quelle autre ville d'Amérique du Nord. La plupart ont été perpétrés par le Western Gang de Montréal, qui est la mafia irlandaise dont on avait un petit peu parlé dans l'épisode du vol au Musée des Beaux-Arts de Montréal.
Oh!
Oh, ils sont toujours là, ouais, comme les Peaky Blinders!
Oui!
C'était l'accent irlandais de Catherine.
J'aime ça, juste « oi! »
Oi! Oi, mate!
Alors, par exemple, dans les 6 premiers mois seulement de l'année 1969, « Année érotique », c'est une chanson de Serge Gainsbourg!
Un autre affaire que je connaissais pas. Il y en a d'autres!
Il en a fait des chansons, Serge.
On en apprend des choses aujourd'hui.
Montréal.
Oui.
Alors, dans les 6 premiers mois seulement de l'année 1969, Montréal allait enregistrer 51 vols de banque, dont le quart seulement allait être résolu. Pour vous donner une idée, Los Angeles, la ville qui était considérée par le FBI comme la ville américaine qui enregistrait à l'époque le plus haut taux de vols de banque, n'en avait alors enregistré que 36 et 60% d'entre eux ont été résolus.
Fait qu'ils ont des meilleurs policiers.
Oui, ils courent plus vite.
C'est ce qu'on a conclu.
Ou on a des meilleurs voleurs.
Nous, on a des meilleurs voleurs.
Nous autres, on a Roy.
Nous autres, on a Roy. Alors, la différence entre les États-Unis et le Canada peut s'expliquer de deux manières. D'abord, les braqueurs de banque montréalais sont pas mal mieux organisés que leurs compétiteurs américains. Et au Canada, plus particulièrement au Québec, un braqueur de banque qui est reconnu coupable va recevoir habituellement une sentence qui est située entre 5 à 7 ans de prison ferme. Tandis que pour la même infraction aux États-Unis, la peine va s'élever entre 10 à 20 ans. Mais là, connaissant le système pénal aux États-Unis, moi, je pense que c'est pas une mauvaise chose pour le Canada qu'on les envoie en prison un petit peu moins longtemps. Alors, la majorité des braqueurs de banque sont des récidivistes, voire carrément des habitués qui se remettent au boulot dès qu'ils sont sortis de prison.
Mais tu sais, quand t'as compris comment le faire une fois, tu sais, que t'es censé faire avec toutes ces connaissances-là.
Tu prends un break de 5-6 ans en prison, puis après t'en recommences.
Ben oui.
Puis tu deviens ami avec les gardiens, puis tu dis « garde ma soupe chaude, je reviens tout à l'heure ». Autre statistique intéressante, selon la police et le FBI, un cambriolage commis à Montréal en 1968 pouvait rapporter 5 000 $ comparativement à 2 000 ou 3 000 $ dans une autre ville au nord des États-Unis.
Oh! On avait le cash!
Oh, beaucoup de cash à se faire dans les banques. Ouais. À l'époque, la majorité de ces vols, ils ont été commis par des hommes. Parmi eux, on retrouve les célèbres Cagoule Rouge, Georges Lemay ou même Richard Blass. Et ça, c'est tous des gens à qui on va peut-être un jour consacrer des épisodes. Alors, je ne m'avance pas trop et je fais des clins d'œil à mes gars.
Peut-être plus tôt que tard, même.
Keep your eyes peeled. Donc, parmi toutes ces belles personnes qui allaient voler des banques, il y a une figure qui allait se démarquer dans ce véritable party de saucisses. Une jeune mère célibataire armée d'un fusil semi-automatique plaqué or que la presse francophone baptiserait Monica la Mitraille et Machine Gun Molly pour la presse anglophone, où la fille Carl Capone aurait voulu avoir et l'héritière de Jesse James, même si elle n'a pas fait de trafic de drogue ni de braquage de train. Et ça, c'est la description du Journal de Montréal à l'époque, ce qui prouve que le Journal de Montréal a toujours été aussi pertinent.
C'est de nulle part. Ils sont comme, oh, c'est un criminel puis un autre. Fait que c'est la même chose.
C'est un autre zeugme.
Tous les crimes se valent. En fait, un zeugme de crime.
Yes!
Alors, Monica, elle est née en 1939 dans une famille italienne nombreuse et elle a baigné dès son plus jeune âge dans la criminalité. Monica, sa famille.
Ciao, ciao!
Catherine va faire son Duolingo en même temps que je fais mon épisode.
À force de mentionner Duolingo, vous allez finir par être sponsorisé par les autres aussi.
Ah, mais ça va nous faire plaisir. Comme ça, le hibou va arrêter de venir cogner dans ma porte en me faisant des yeux méchants quand je fais pas mes exercices d'espagnol.
Ouais, je voulais juste dire que malgré toutes mes leçons de Duolingo, je serais pas capable de dire Monica la mitraille a volé une banque en italien. Il manque des mots pour faire cette phrase-là. Là. Je sais. À quoi ça sert?
D'être les banques de vocabulaire. Ouais.
La famille de Monica avait élu domicile sur la rue Saint-Dominique dans le Red Light montréalais.
Yes! Bon choix!
Donc Catherine est une experte.
Très bon choix! Oh!
Ça! Je sais, ça sous-entend que t'aimes ça le Red Light Montréal.
Yes! C'est un sujet qui m'intéresse. Oui, à des raisons personnelles.
Ce que tu fais de tes fins de semaine, c'est pas de nos affaires.
Saint-Dominique, c'est une rue vraiment hot.
Donc, le Red Light qui avait été baptisé ainsi en raison des lanternes rouges que l'on pendait aux portes des maisons de désordre.
Des maisons de désordre?
Oui!
Des maisons de désordre? Où ça? Quand ça? Pourquoi? On sait pas ça!
C'est la première fois que j'entends cette expression-là.
Pour vrai?
C'est des maisons closes.
Des maisons de débauche puis des maisons de désordre. Ouais.
C'était sale.
Mais oui, il n'y en avait pas pour vrai. Hein.
Ça n'existait pas.
C'est juste une rumeur.
À l'époque, le quartier des Red Light s'étendait de la rue Sherbrooke jusqu'au vieux Montréal, entre les rues Saint-Denis et Bleury. Et là, la propre grand-mère de Monica, un petit peu comme un personnage de Charles Dickens, elle dirigeait une véritable école de la criminalité. Elle enseignait aux enfants du quartier les rudiments du vol à l'étalage, qu'ils mettaient à profit dans les commerces environnants, et elle touchait des redevances sur les butins de ses élèves. Grand-maman Proietti écoperait en 1952 d'une peine de prison de 12 ans.
Grand-maman Proietti!
Grand-maman Proietti!
Proietti! Ah, c'est donc bien beau! Okay.
Alors âgée de 13 ans, Monica devient travailleuse du sexe afin de soutenir financièrement sa famille qui ne cesse de s'élargir. Elle a alors pas moins de 8 frères et sœurs.
Oh non!
On peut empêcher la famille.
Non, pas empêcher la famille.
Oui, mais on peut empêcher la prostitution à 13 ans,
là,
par
Catherine,
exemple.
T'en a beaucoup.
Ah, ok, excusez.
Mais là, malgré son jeune âge, Monica, elle a déjà une réputation de dure à cuire. À l'âge de 16 ans, elle se promène dans les rues du Red Light avec un fusil dissimulé dans son soutien-gorge qu'elle dégaine pour faire peur aux adolescents qui l'embêtent. Puis là, moi, je suis pas très boobalicious. Fait que je pourrais juste avoir un tout petit soleil.
Ça fait comme tu vois la forme à travers de ton chandail.
Oui, juste comme... Non, j'ai rien dans mon chandail, je sais pas de quoi tu parles.
Mais c'est ça, je pense que ça nous indique qu'elle avait tout un rack, parce qu'effectivement, ça doit... C'est quand même gros, un pistolet!
C'est gros pis c'est long!
C'est quand même dur à cacher dans ton corsage, là!
Elle passait ses journées dans les cafés où elle fait la rencontre de personnages comme les frères Poirier, des célèbres gangsters qui seraient éventuellement impliqués dans le meurtre de la danseuse Margot Turner. Et elle va également faire la rencontre à l'âge de 17 ans d'Anthony Smith, un gangster écossais qui, lui, avait 33 ans. Il avait été expulsé de l'Angleterre après avoir commis une série de vols à main armée.
Bonne raison.
Et celui-ci fera de Monica sa femme, la mère de ses deux enfants et sa partenaire de crime.
Est-ce que c'est Roy Dupuis?
Non, Roy Dupuis arrive plus tard.
Ah, ok, ok.
Je me rappelle pas dans le film qui faisait ça. Parce que la chose à savoir, par exemple, par rapport au film sur Monica la mitraille, c'est que les sœurs de Monica avaient refusé de vendre les droits sur leur histoire. Alors, tous les noms ont été changés, puis il y a certains éléments aussi qui ont été modifiés. Donc, je me suis pas servie du film avec Céline Bonnier ni du roman de Georges Hébert Germain pour faire mon épisode, parce qu'il y avait beaucoup d'éléments très, très, très fictionnels là-dedans. Puis c'est ça qui était vraiment difficile pendant mes recherches, c'est que Monica a vraiment été mythifiée.
Mais t'as bien fait.
C'était difficile d'avoir des vraies informations. C'était trop l'équivalent de Bonnie and Clyde, puis les gens ont trouvé ça trop cool. Fait qu'il y a beaucoup de mythes qui se sont élaborés autour d'elle. Je veux dire, un an après sa mort, il y avait déjà une pièce de théâtre inspirée par elle avec Denise Filiatro qui jouait.
Oh my god!
Donc, les gens, c'était une histoire qu'ils ont vraiment adorée puis qui se sont réappropriées hyper rapidement. Donc, c'est difficile d'avoir des informations qui sont correctes. Donc, ce que je vous dis, je pense que c'est les informations qui ont été le plus corroborées. Mais faites-vous abstiner avec moi un peu de crème à gmail.com.
Non, moi, j'aime mieux la version du film.
Roy Dupuis.
Comment oses-tu nous dire la vérité? Ou qu'est-ce qui se rapproche le plus de la vérité?
Oui.
Toute la vérité.
Comment oses-tu faire des recherches quand les films nous offrent la vérité toute crue dans le bec?
Alors, elle devient la partenaire de crime de son mari qui est 16 ans plus vieux qu'elle.
Yark!
Par contre, ceux-ci, ils ne feront pas long feu à titre de Bonnie and Clyde montréalais parce que le couple va être arrêté en 1962 après avoir cambriolé le Café Paloma, qui n'existe plus, mais il y a un...
Oh non, pas le Café Paloma!
Ça n'existe plus! Mais il y a un restaurant Paloma près de chez moi, mais je sais que c'est pas du tout la même chose, c'est la cuisine des Antilles.
Le Café Paloma, il me semble que c'était un hotspot de recrutement pour les prostituées du Red Light.
Je pense aussi.
Yes, les madames du Red Light aimaient beaucoup aller manger là-bas, fait que là, tu pouvais être une jeune fille, puis rentrer dans le café, puis tu vois une madame, puis tu vas la voir, puis tu dis « Bonjour, j'aimerais ça travailler chez vous ». C'est comme ça que ça se passait, le recrutement.
C'est donc bien facile,
c'est cool, là. Ça sert à quelque chose, faire des recherches sur le Red Light, je peux vous en parler dans notre podcast. Des heures de plaisir.
Littéralement.
Voilà. Littéralement. C'est la fin de mes anecdotes sur le Red Light. Vous avez pas l'air d'aimer ça, je vous en donnerai plus.
Non, les...
C'est une blague. Je suis pas fâchée, je suis pas
fâchée. On t'aime, Catherine.
Oui. Café Paloma.
Anthony Smith, à cause du crime, va être déporté dans son Écosse natale.
Ben oui, retourne chez vous aussi.
Retourne chez vous! Va souffler dans une cornemuse puis porter des jupes pas de bobette.
Yi! Faire des danses et Ryan.
En passant, les Écossais qui nous écoutent, on vous aime.
Oui aussi. On peut pas faire votre accent comme on peut pas faire l'accent des Irlandais non plus, fait qu'on essaiera pas.
Par respect pour l'Écosse, on fera pas votre accent.
De respect, on n'a pas de
non.
Pour les autres.
Mangez de la chenille.
Un jour, on va parler de l'Australie puis on va dire good day, mate! Put some shrimp on the barbie! Mais ce jour n'est pas arrivé.
Mais expect it, people! Expect it! On va chercher.
Peut-être que Claude Faneuf est en Australie, puis on va pas en parler à cause de ça.
Alors, Smith est déporté et Monica se retrouve seule pour s'occuper de leurs deux enfants en bas âge.
Ah, ça, c'est
à l'époque, fun. Les articles ne sont pas très tendres à l'endroit de Monica. Le Petit Journal de Montréal, donc I guess le Journal de Montréal maintenant, ironise...
Ben c'est comme un... J'en ai lu des articles, c'est comme un genre de journal à potin.
Ouais, un peu. Alors,
Le petit journal de Montréal.
Le petit journal de Montréal. Comme, nice. Il était on tout petit, là, tu tenais dans tes mains, puis t'étais comme...
Oui!
Mais c'était comme, plus comme une tisse de 7 jours, mais pour les fêtes d'hiver. Là, si on...
Nice.
Alors?
La semaine.
C'est la semaine. Bonne. Mais avec juste des affaires de crime dedans.
Bonne semaine.
Le petit journal de Montréal ironise et dit « Que peut faire une pauvre femme laissée seule avec deux enfants? Tout le monde le sait, on se dépêche d'aller acheter une mitraillette! » Puis moi, je dis « Mets-toi de tes affaires! »
On dirait que c'est l'affaire à witty remark, mais en même temps, c'est pas drôle.
Mais là, non, moi, je pense qu'un peu de crime dans ton café, on peut surtout avoir de la compassion pour Monica, puis en profiter pour questionner un petit peu la responsabilité de la ville de Montréal dans la descente, dans la criminalité de Monica. Parce qu'à l'époque, Monica, elle avait pas juste perdu son mari, elle a aussi perdu une bonne partie de sa famille dans une tragédie qui aurait facilement pu être évitée.
Oh my god, c'est quoi?
Le matin du 3 février 1958, il y a un incendie qui se déclare au 1662 de la rue Sainte-Élisabeth pendant que Roméo Proietti, le père de Monica, est en route pour le travail.
Non!
Une fournaise à huile avait explosé et le feu se répandait rapidement à travers les unités des 1er, 2e et 3e étages.
Oh non!
Alerté par la police, Roméo va devoir assister impuissant au carnage qui allait coûter la vie à la mère, ainsi qu'à Giovanni, 6 ans, Ginette, 4 ans, Marcelo, 8 ans, et Michel, un bambin de 8 mois à peine.
Oh non, c'est donc bien triste!
Mon Dieu, c'est épouvantable!
Donc, ayant déjà emménagé avec Anthony Smith à l'époque, Monica s'est sortie indemne de l'incendie. Puis là, c'est là qu'il commence à y avoir des informations différentes. Il y a des articles qui disent que Monica a essayé d'aller dans l'incendie sauver ses frères et sœurs. Puis il y en a d'autres qui disent que la mère n'est pas décédée dans l'incendie, mais qu'elle aurait été plongée dans un coma. J'ai pas vraiment été capable de trouver de confirmation là-dessus, donc je vais pas trop m'aventurer. Par contre, on peut parler de la responsabilité de la ville de Montréal dans l'incendie, parce que le building avait été acheté par la ville pour être démoli, pour construire des immeubles à logement à moindre coût, qui sont maintenant les habitations Jeanne Mance, qui sont encore parmi nous aujourd'hui. Puisqu'on avait prévu de démolir le tout, le bâtiment était entièrement dénué.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
De protocole en cas d'incendie et il n'y avait aucune sortie de secours qui permettait une évacuation rapide en cas d'incident.
C'est dans mes trash. Ils sont comment laisse-les brûler.
Oui, parce que c'était un quartier très pauvre. Alors, whatever ce qui arrivera, arrivera. Puis même si ça brûle avant qu'on aille à le démolir puis à payer pour le démolir, ben tant mieux.
Mais là, je veux pas dire tes méchancetés, là, mais ça, c'est comme du niveau de Jared Kushner.
Ouais, ouais.
Oui.
C'est pas super génial, Ville de Montréal.
On peut bitcher Jared Kushner à un peu de crime dans ton café.
Est-ce que tu penses qu'il nous écoute? On peut dire du mal sur son compte. Mais non, c'est vraiment irresponsable comme pratique, là.
Ah oui. Puis, ben c'est sûr qu'à l'époque aussi, il devait avoir un petit peu moins d'inspection, etc. Là, mais
ouais.
Quand même, un escalier en arrière, ça sauve des vies, gang.
Ah oui, c'est comme c'est de la négligence qui était pas nécessaire.
Non, c'était de la négligence
criminelle. Plus, c'était comme... Ils sont comme « Ah, ben, laissez-les mourir, c'est vraiment pas si grave que ça. » Voyons donc.
C'est très grave. Il y avait quelqu'un qui s'appelait Ginette.
Oui.
Le bébé s'appelait Michel.
Le bébé s'appelait Michel.
Alors, Monica, elle est laissée à elle-même pour s'occuper de ses deux jeunes enfants. Elle allait bientôt devoir reprendre du service dans le domaine de la criminalité.
Yes!
Son nouvel amant, Viateur Tessier, dont le nom sonne plus comme une intersection que le nom d'une actuelle personne... Je vais te rencontrer au coin de Viateur pis Tessier, ok? Je suis là.
Pis Tessier, ouais.
2 heures, c'est correct? Donc, Viateur Tessier, c'est un voleur de banque chevronné.
Nice.
Qui va lui enseigner les rudiments du métier. Parce que jusqu'à ce point-là, Monica, avec Anthony Smith, elle braquait surtout des cafés, pas des banques.
Mais... Comme dans Pulp Fiction.
Exact.
Oui, c'est ça. But that's where the money is, les banques. Faut upgrader un petit peu. Yes.
Alors, le duo formé par Monica et Viateur est assez efficace. Si Viateur, c'est les muscles de l'opération, Monica, c'est le cerveau. Leur entreprise va cependant prendre fin de manière abrupte quand Viateur va se faire pogner et envoyer en prison pour 15 ans et ne passera pas le go et ne réclamera pas 20$.
Il a pas fait long feu, Viateur, non plus?
Non, Viateur, je pense que dans le film, c'est Patrick Huard. Je pense. Les gens que c'est leur film préféré, vous pouvez nous écrire pour vous obstiner.
Y a-tu des gens que c'est leur film préféré?
Je pense
pas. Il y en a peut-être.
Non, mais c'est sûr qu'il y en a.
Peut-être un.
Mais le père de Monica, c'est Marc Labrèche.
Moi, je suis offended par le fait qu'il y a personne là-dedans qui est une vraie personne italienne. Je trouve ça, je trouve ça vraiment particulier comme, ben oui, comme idée de casting. Il s'appelait Romeo Proietti. Puis c'est Marc Labrèche. Je comprends pas votre truc. Ouais. C'est de l'appropriation culturelle.
Mais je l'aime, Marc Labrèche. Il peut faire tout ce qu'il veut. Est-ce que vous avez déjà écouté la traduction française du film New Jack City?
Je sais même pas c'est quoi. C'est quoi?
Ça se passe dans le Bronx, à New York. C'est des gangs de rue. Puis c'est Marc Labrèche qui fait la traduction.
Oh, wow!
Et c'est à se rouler par terre. C'est horrible. Comme si vous avez déjà écouté Snapshot, c'est la même chose. C'est Marc Labrèche qui fait des voix de gangster dans le Bronx. Des trafiquants de drogue. Il y a des extraits sur YouTube, je ne l'ai pas trouvé au complet, mais il y a des extraits sur YouTube, allez voir ça, c'est Chef's Kiss. Ouais. Chef's Kiss.
Sur Wikipédia, ça dit que Cuar jouait Gaston, Lucie, fait que ça te plaît.
Mais ils ont changé les noms.
Non, mais dans le film.
Ouais, c'est ça.
Ouais, mais ils ont changé les noms.
Mais il aurait dû l'appeler de nom de, d'une autre intersection, comme Chateaubriand, Rosemont.
Il aurait pu l'appeler Rachel Berry.
Ah! Oh! C'est mon nouveau chum, il s'appelle Rachel Berry.
Puis il m'apporte des bonnes pommes organiques.
L'autre après s'appelle Sobeys.
Alors, à nouveau seule et maintenant mère de trois enfants, God! Parce qu'elle a eu un autre enfant Viateur! Avec Viateur Tessier. Monica, elle décide de faire un Peter Gabriel d'elle-même et de poursuivre une carrière solo. Boum! Surprise, blague de Peter Gabriel.
On s'en sort pas.
Boum, flippin'. Partout. Partout.
Alors, elle laisse ses enfants chez sa sœur à Repentigny. Et Monica commence à lentement réintégrer le monde de la criminalité en commençant tout en bas de l'échelle en servant de getaway driver comme Ryan Gosling dans Drive.
Qui aussi Baby Driver dans Baby Driver. C'est un rôle non négligeable.
Oh non, c'est la personne la plus
importante. C'est le plus important.
T'as pas de getaway driver, où est-ce que
ça,
tu
t'es
vas?
T'es pogné là, la police arrive, t'es fait, that's it.
Ouais. Je considère pas que c'est en bas de l'échelle ça, je considère que c'est le rôle.
C'est en bas de l'échelle parce que c'est eux qui tiennent l'échelle.
Je crois que la personne a se passe.
Attention!
Si tu veux te débarrasser de tes conspirateurs, tu shakes l'échelle puis tu t'en vas.
Alors, Monica, elle servait de Ryan Gosling aux amis et connaissances de Viateur Tessier qu'elle rencontrait à l'American Spaghetti House et au St. John's, le repère des durs, si j'en crois Daniel Proulx dans la presse. Fait que là, c'est comme le bar là, dans le... dans Bob l'éponge, là, qu'il faut que tu prouves que t'es tough pour pouvoir rentrer, ah, ouais. Là. Fait que là, pète des bouteilles de bière.
Pas toujours avec des bulles. OK, mais le c'est quoi le American Spaghetti House?
L'American Spaghetti House et le St. John's.
Maison de spaghetti. C'est pas
moi, je veux la maison du spaghetti dans le vieux port. J'espère que c'est ça.
Alors, j'imagine qu'elle se pétait des bouteilles de bière dans le front pour pouvoir rentrer.
Ah! C'est comme ça que tu prouves que t'es tough.
Rapidement, Monica va impressionner ses collègues du milieu par sa force de caractère, ses nerfs d'acier et sa capacité à demeurer parfaitement calme pendant les braquages de banque, et ce, sans l'aide de l'alcool ou autre drogue.
Peut-être qu'elle était juste dead inside puis ça y dérangeait plus.
Ben, avec tout ce qu'elle a vécu à date, je comprendrais.
Non, c'est ça.
Mais en même temps, c'est ton getaway driver, j'aimerais ça qu'il soit pas sous.
Hey, ouais, mais c'est les années 60, tu pouvais tout comme rouler n'importe où avec une quille de bière entre tes cuisses, puis c'était et hey, ok.
Puis la police était comme
c'est correct.
T'as juste fait correct. Pour moi aussi, mais c'est
la police, elle arrivait parce qu'elle faisait un chin.
La police à cheval. Il y avait encore la police à cheval, je pense. Il y a encore la police à cheval aujourd'hui, tu sais.
Ben oui.
Chin chin. Ouais.
Qui est un petit peu moins ridicule que la police à vélo, que quand ils t'arrêtent, ils te mettent dans le petit panier en avant. Ou le petit sidecar là, pour les enfants.
C'est full le fun, les petits sidecars.
Les zips.
Oh
là,
les... oh, ça, c'est cute.
Pendant les 2 ans qu'ont duré sa carrière de braqueuse de banque, Monica allait devenir une véritable sensation dans les médias. La baptisant Monica la mitraille ou Machine Gun Molly, Monica n'a, par contre, jamais abattu ni blessé gravement quelqu'un avec une arme à feu pendant ses cambriolages.
Ça, c'est fun!
Eh, tout le monde était correct. Même si elle était devenue une sorte de vedette locale, Monica parvenait à s'échapper à la police grâce à des déguisements. Au moment de cambrioler des banques, celle-ci portait des complets et des perruques qui lui donnaient une silhouette assez masculine. Une fois qu'elle s'était enfuie avec son butin, elle enlevait ses soutes et mettait des jolies robes élégantes avec des talons.
Ça fait très film d'espion, là. C'est juste comme...
Ouais. Fait que la police, ben eux, ils pensent que Clark Kent pis Superman, c'est...
C'est comme, ah, oh, c'est qui cette jeune femme en robe de soirée? C'est pas le monsieur là-bas avec une perruque?
Une perruque grise?
C'est Claude Faneuf avec sa moumoute blonde.
C'est Claude Faneuf. Clic, 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 clic.
Ben oui.
C'est les mêmes années, en plus.
C'est vrai.
En tant qu'une des voleuses de banque les plus célèbres et les plus accomplies, Monica a volé pour environ 100 000 $ de 20 institutions bancaires différentes à travers Montréal. Aujourd'hui, le montant s'élèverait à environ 650 000 $.
Pas pire,
pas pire. Pas pire, pas pire. Cependant, c'est en septembre 1967 que Monica va décider qu'elle en a assez de vivre cachée et souhaite offrir une vie un peu plus rangée à ses enfants. Mm-hmm. C'est avec son amant du moment, Gérard Lelièvre.
Voyons.
Ok, ok.
Et ça, c'est Roy Dupuis!
Ah! Gérard le lapin.
Alors, Gérard le lièvre et Robert, le frère de Gérard, elle va planifier un dernier vol de banque dont les fonds allaient lui servir à se sauver en Floride.
Tout se passe en Floride. Oh!
Comme le Yakutat de Claude
Fanel. Tout se passe en Floride. It's the place to be.
Pour les criminels en cavale, c'était la bonne place.
Mais vraiment!
It's got everything. Des petits flamants roses en plastique, des alligators et du racisme. Yeah, yeah, yeah. Yes.
Des terrains de golf pis des hold-up au McDo.
Le destin allait cependant décider autrement.
Non!
Non!
Non! Arrête, destin!
Excusez, là. Je réagis fort, je suis une bestie dans cette histoire.
Un side note. Dis donc pas que c'est ton dernier heist. Parce que Bonnie and Clyde aussi, c'était supposé être leur dernier heist. C'est toujours quand c'est ton dernier que ça marchera pas. Fait que dis que c'est l'avant-dernier. Ah, prévois-en un autre, puis fais-le juste jamais. Trick le destin. Ouais. Mets-le sur la glace. Comme trick le destin. Puis là, le destin va être comme « Ah non, j'ai été naïf! »
Bonnie and Clyde, c'est terrible comme histoire. En tout cas, oui.
Oui. Alors, le 19 septembre 1967.
Mm-hmm.
Monica, Gérard et Robert, armés et encagoulés, font irruption dans la caisse populaire de Saint-Vital dans Montréal-Nord. Ils vont s'emparer du contenu de 3 caisses. Le butin s'élève à 3000 $. Le trio s'enfuit à bord d'une Chrysler avec 2 autopatrouilles à leur trousse.
Oh!
Parce qu'on est à Montréal, les bandits sont forcés de s'arrêter à l'intersection des rues Fleury et des Récollets à cause des travaux sur la chaussée.
Ah non!
On est à Montréal, il y a des travaux, ça date pas d'hier. Il y a des cônes jaunes-orange, il y a aussi passé.
Ah.
Alors pour échapper à la police, Monica et compagnie décident de changer de voiture. Mitraillette dorée en main, Monica s'approche de la voiture d'un certain Adrien Tremblay, un inspecteur de la voirie de Montréal-Nord. Et elle va lui braquer son arme sous le nez et prendre place à ses côtés.
Ah!
Le Tremblay était comme « Oh mon Dieu, je peux-tu avoir un autographe?
Oh! » Est-ce que vous êtes Machine Gun Molly?
Oh my God, ma fille est une grande fan!
On prend un selfie!
Tremblay avait alors en sa possession de l'argent liquide parce qu'il venait de se faire remettre sa paye.
3 piastres.
À peu près, oui. Monica s'empare des billets. Frappe Tremblay derrière la tête avec sa crosse de fusil Hollywood style et abandonne l'homme sur la chaussée avant de reprendre sa course avec les deux frères Lelièvre sous le feu des policiers qui commencent à les rattraper.
C'est full GTA, là.
Ouais. Ah oui, oui, on est en train de jouer à Grand Theft Auto, là, pour de vrai, là. La voiture file à travers la ville en un effort désespéré pour échapper aux policiers qui ne les lâchent pas d'un pouce. La course folle va prendre fin beaucoup plus loin, pardon, à l'angle des rues Pie-Neuf et Dickens. Maintenant, Dickens a changé de nom, mais j'ai pas réussi à trouver c'est laquelle. Mais je sais qu'on est rendu dans le quartier Saint-Michel.
Ouais, ouais.
Faites vos gages.
Pie-Neuf, on n'est pas dans Saint-Léonard?
Ah, peut-être. Je sais pas si ça me disait Saint-Michel.
Ça dépend à quelle hauteur.
Ah ouais, ouais, c'est vrai. Excusez.
Ouais, comme... Continue pendant un petit bout. Ils sont rendus à l'angle des rues Pie-Neuf et Dickens. Et la voiture de Monica et compagnie va entrer en collision avec un autobus de la CTN de la ligne 99.
Non!
Pas la 99.
La commissaire des transports de Montréal, qui était alors l'appellation de la STM. La voiture est complètement détruite et Monica est coincée dans l'épave tandis que la police se rapproche.
Oh non!
En bon gentleman, les frères Lelièvre sont demeurés sur place et ont aidé Monica à s'extirper des débris. JK se sont sauvés à pied comme ça avait oublié d'éteindre le four avant de partir ce matin.
Ben non! Ben non! Oh,
oui, ils ont laissé Monica. Bonne chance! Bye!
Gang de trou de cul.
Aïe aïe.
Abandonné à son sort par Roy Dupuis, cerné de toutes parts. Là, Éric Bruneau est comme fou. J'ai un mon break.
Fou, ils ont pas parlé de moi dans un épisode.
On a pas parlé d'Éric Bruneau dans les deux autres épisodes avant non plus.
Je suis sûre que oui. Non? Non.
J'ai Éric... pas l'impression.
Ah, ok.
Éric, on t'aime encore, on s'excuse.
Reviens!
On t'a pas lâché.
Ah.
Abandonné à son sort par Roy Dupuis, cerné de toutes parts, Monica tente de lever son arme en un effort désespéré pour échapper à la police. Mais ceux-ci vont être plus rapides et Monica va mourir abattue de 3 balles, dont 2 l'atteignent à la tête et 1 à la poitrine,
ah!
ou au sein pour oh, m'exprimer comme la presse pas pantoute misogyne de l'époque.
Wow! Ils ont dit ça pour vrai.
Ben, that will do it, en 2 balles dans la tête, c'est assez.
Puis, en passant dans la presse, la photo de Monica abattue est là, en gros. La photo de Monica sur les lieux du crime n'est pas du tout difficile à trouver. En fait, si vous cherchez Monica la mitraille, c'est probablement une des premières images que vous allez trouver. Alors, sachez-le, si en écoutant cet épisode-là, ou peu importe, vous êtes curieux, vous allez voir la photo de Monica.
Écoutons, est-ce qu'on est dans le Wild West? Que ça expose? Pourquoi il y a ça dans les journaux?
Ben, moi aussi, je trouve ça un peu intense, surtout que, en tant que telle, Monica et les frères Lelièvre ne tiraient
ouais,
pas.
Ouais, ben, elle avait une mitraillette
ouais, dans la gueule. C'est sûrement aussi sa réputation. Mais en même temps, elle avait jamais tué personne.
Mais je pense que c'est la police qui était pas mal énervée qu'elle aurait échappé pendant aussi longtemps. Puis là, c'est un petit peu. On était un petit peu rendu du côté du règlement de compte.
J'avoue qu'on peut relativement facilement trouver des images de cela sur Google, je peux en témoigner. Mais j'ai pas trouvé d'image de corps, mais il y a les images de la scène de crime, oui.
Mais c'est même la photo de couverture du roman de Georges Bergeron.
Come on.
Ce que je trouve un peu ordinaire. Alors, Monica meurt sur la chaussée. Elle était âgée de 29 ans et elle laissait derrière elle 3 enfants en bas âge. Ginette, Anthony Smith Jr. et Gilles Tessier. C'est le père de Monica, Roméo, qui sera chargé d'identifier son corps à la morgue. Pour leur part, Gérard sera retrouvé par les policiers 2 jours plus tard caché dans un cabanon.
Mais c'est ça, maudit lâche!
Je sais pas combien de temps il avait prévu rester caché là. Sors de mon cabanon, Roy Dupuis!
C'est quelqu'un qui va chercher sa tondeuse, puis qui est comme « Ah, il y a un monsieur!
» Puis Roy Dupuis qui est comme «
Ah! » Occupé!
C'est déjà pris!
Occupado! Son frère Robert sera quant à lui parvenu à échapper aux autorités jusqu'au 10 octobre. Il sera alors intercepté à bord d'une voiture volée à Hull. La balade des frères Lelièvre est cependant loin d'être terminée. Le 22 mai 1968, les frères et 4 autres prisonniers, à l'aide d'un revolver que Robert était parvenu à obtenir, on ne sait pas trop comment, ont réquisitionné une fourgonnette grillagée qui appartenait au service correctionnel, tandis qu'il devait être transféré du tribunal de Saint-Jérôme, au nord de Montréal, vers la prison de Bordeaux. Ils sont parvenus à s'enfuir jusqu'à un barrage routier dressé par la police à proximité du village de Sainte-Monique. Les 4 condamnés qui accompagnaient les frères Lelièvre se sont aussitôt rendus, mais les frères Lelièvre avaient toujours pas dit leur dernier mot. Malgré leurs menottes au poignet et aux chevilles, les frères se sont enfuis dans un boisé voisin, poursuivis par des policiers. Des coups de feu ont été échangés et Gérard a été abattu sur place.
Ben fait pour lui, c'est le karma! Ouais,
c'est à côté de Sainte-Monique à part de ça.
Hey,
le destin, il était là encore.
Il était là.
Le destin, il était comme « bitch ».
T'as abandonné ma girl.
C'est la justice poétique.
Gravement atteint à l'abdomen et à la tête, Robert a été transféré à l'hôpital. À la suite de sa convalescence, il a subi son procès le 7 octobre 1968 pour écoper de 7 ans de prison. À sa sortie, il va intégrer les rangs du West End Gang et va périr en 1984 dans un attentat à la bombe qui avait probablement été perpétré contre l'un des chefs du gang par un gang rival.
Car bomb!
Oui, Irish Car Bomb.
C'était un Irish Car Bomb. Voilà, tout est dans tout.
Alors, si Monica, c'était la dernière des femmes Proietti à connaître une mort tragique, donc sa grand-mère qui est morte en prison après avoir eu son école de la criminalité.
La nonna Proietti.
Sa mère qui est morte de l'incendie dont la ville était responsable. Et Monica qui venait de mourir sous les balles des policiers. Le cycle de la criminalité ne serait cependant pas rompu pour les enfants de Monica. Anthony et Gilles ont tous les deux été arrêtés à maintes reprises pour divers délits criminels, dont des vols à main armée, comme leur maman.
Ooh.
Et maintenant, je suis arrivée à la fin de mon épisode, mais j'aimerais vous donner une citation que Daniel Proulx avait utilisée lui-même dans son article sur Monica. C'est une citation de Balzac.
Mm-hmm.
« Pour le pauvre, Le vol n'est plus ni un délit, ni un crime, mais une vengeance.
Oh. Hey.
Je trouvais que c'était une belle citation, j'avais envie de l'inclure.
C'est une belle finale.
Oui. Alors voilà, c'était l'histoire de Monica Lamitraille. J'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant à faire comme recherche, puis... Je sais que c'est pas correct de voler de l'argent, mais je ressentais quand même une certaine sympathie pour Monica. Je veux dire, quand ouais. c'est les cartes qu'on te donne, ben, tu fais ce que tu peux avec les cartes.
Mais oui, puis aussi, à chaque, quasiment chaque étape de son parcours, tu sais, de, les inégalités systémiques de la ville, puis de la pauvreté qui rentre en jeu, là, tu sais, on route pour ouais. elle, parce que, comme tu dis, c'est les cartes qu'elle avait dans les mains. Puis aussi, ici, elle a jamais mm-hmm. tué personne.
Donc, en fait, pendant la poursuite entre la police et Monica qui a mené à son décès, il y a eu une autre victime et c'était un jeune enfant qui jouait devant chez lui et qui a été atteint par une balle à la joue. Il me semble qu'il a survécu, mais je pense que c'était une balle tirée par la police. Alors, encore une fois, on peut se dire, je pense que Montréal dans les années 60, c'est quand même pas le Wild West. Alors, quand je lisais le rapport de la police qui tirait sans arrêt sur eux, je me disais, mais... Voyons donc,
c'est
comme ça qu'on fait les choses ici, mais...
Ouais, c'est un peu excessif, c'est ça.
Alors voilà, oh. c'était l'histoire de Monica Lamitraille, revue et corrigée par Daniel Proulx de La Presse.
Oh, et ensuite revue et corrigée par toi!
Et par vous, et par votre...
Oh,
ouais. Par nos jokes.
Ah, oh,
yes.
Alors merci beaucoup, Audrey, pour ce récit collectif. Oui, ce récit collectif,
fait plaisir.
Mm-hmm. Ça a été un très beau cas. Moi, je pensais qu'il y allait en avoir bien plus à raconter sur Monica Lamitraille, mais là, apparemment, elle est morte vraiment jeune. Je ne savais pas ça. Parce que, c'est ça, j'ai pas vu le film avec Roy
Dupuis. Moi non plus.
Je n'aime pas tant que ça, Roy Dupuis, OK? C'est dit maintenant. Fait que j'ai jamais vu ce film-là. Je savais pas quand est-ce qu'elle mourait. Elle est morte vraiment jeune. Pour vrai, c'est effectivement très tragique. Alors, merci beaucoup, Audrey, pour ce cas.
C'était plaisir.
Alors, si vous avez déjà volé une banque, chers auditeurs, chers auditrices, dites-nous-le pas. Ouais, gardez ça pour vous. C'est un poids trop, trop lourd à porter. Sinon, comme on l'a dit dans l'épisode précédent, vous pouvez toujours contacter le 911 quand vous avez besoin de la police. C'est le numéro auquel rejoindre la police. Et sinon,
si vous avez été victime d'un vol puisque vous travaillez ouais. dans une banque, appelez le 911 puisque Catherine et moi, on va juste se partager du hot tea.
Ouais, c'est juste ça qu'on fait. Mais vous pouvez nous écrire si vous avez des choses à nous raconter ou des cas à nous suggérer. Vous pouvez nous écrire à unpeudecrime@gmail.com. On a déjà eu des suggestions qui sont rentrées. Et moi, je suis en train de préparer un cas qui nous a été suggéré par une auditrice. Fait qu'on vous remercie pour ça. On les tient en compte. Ça nous fait chaud au cœur d'avoir de vos nouvelles. Alors écrivez-nous. Sinon, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, @unpeudecrime, et sur Instagram, @unpeudecrime dans ton café. Et nous vous invitons à joindre notre belle communauté de fans. C'est tout!
Merci tout le monde!
Merci tout le monde d'avoir été là. Oui, merci chers auditeurs, chères auditrices, et on se retrouve la semaine prochaine.
Volez pas de banque, s'il vous plaît!
Non, c'est ça. On se retrouve la semaine prochaine pour mettre un peu de crime dans votre café. Bye bye!
Bye tout le monde!
Your favorite one-hit wonder.
Or that overpriced toy your parents would never let you have.
Or that TV show that no one else remembers because it was canceled way too soon. Now what if we could fix it? I'm Francesca Ramsey.
And I'm DeLon Grant. And after 20 years of friendship, we are now hosting a new nostalgia podcast called Let Me Fix It.
Each episode, we'll dig into our favorite celebrities, shows, and brands of yesteryear, and then imagine what it would take to repackage them for relevance today.
Think of our show as an intervention, but with way less stakes.
So subscribe to Let Me Fix It wherever you get your favorite podcasts.